Il y a l'Allemagne qui rencontre beaucoup de succès en matière économique, une situation favorable aux deux tiers de la population du pays. Mais il y a l'autre tiers de la population qui ne participe pas à cette croissance économique.
Je gagne 425 euros net par mois. Je n'ai pas de couverture sociale avec ce mini-job. Dans la rue, je vois que nos retraités ici, ils regardent dans les poubelles. Ce n'est plus vraiment aussi formidable. Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait aller plus souvent dans la rue, nous aussi, comme c'est le cas en France, se rebeller, quoi.
Richtig, me rebellir.
Elle est considérée comme inamovible. Dimanche, les élections législatives allemandes devraient offrir à Angela Merkel un quatrième mandat. À la tête d'un pays dont la réussite économique est toujours citée en exemple, la chancelière se pose en garante de la stabilité. La baisse de popularité que lui avait valu l'ouverture de l'Allemagne aux demandeurs d'asile en 2015 est oubliée. Grâce à Angela Merkel, l'Allemagne apparaît comme à la fois forte et accueillante. À son arrivée au pouvoir il y a 12 ans, le pays comptait 5 millions de chômeurs. Ils sont moitié moins aujourd'hui et la chancelière vise le plein emploi en 2025, soit un taux de chômage sous les 3%. Mais ce succès s'accompagne d'une montée des inégalités sociale et de la précarité sur le marché du travail. On met souvent en avant la cogestion entre employeurs et syndicats, mais un actif sur cinq occupe aujourd'hui une activité atypique en Allemagne. Entre CDD, intérim, temps très partiel, mini-job à 450 euros par mois, des contrats qui n'offrent ni sécurité sociale, ni allocation chômage, ni points retraite, le nombre de travailleurs pauvres a plus que doublé en 10 ans. Et plus de 900 000 retraités sont obligés de travailler pour compléter leur pension. La face cachée du miracle allemand, c'est un magazine signé Valérie Crova. À l'occasion des élections allemandes, la rédaction de France Culture s'est installée à l'Institut français de Berlin et nous sommes très heureux d'accueillir deux invités berlinois, Klaus Peter Sick, historien au centre Marc Bloch, et Matthias Schaeffer, chef du département économique à la Fondation Konrad Adenauer. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vous ferai réagir au reportage de Valérie Crova. Bonjour Valérie.
Bonjour Aurélie.
Vous vous êtes donc intéressée à ceux qui ne profitent pas de la bonne santé économique allemande. Où est-ce que vous êtes allée ?
À Cologne, la quatrième ville d'Allemagne, et à Duisbourg, qui est à une heure de route. Nous sommes dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui abrite un quart de la population nationale. Duisbourg demeure un fief du SPD. Cette ancienne ville industrielle n'a pas réussi sa reconversion, et les laissés pour compte de la croissance allemande y sont légion.
On part donc tout de suite à Duisbourg.
En ce mercredi matin, une soixantaine de personnes attendent avec leur caddie que le centre d'Itafel de Duisbourg ouvre ses portes. Dans la file, on entend parler arabe. Il y a des réfugiés syriens, mais aussi des Irakiens arrivés récemment, ou encore des Ukrainiens qui se sont installés depuis quelques années outre-Rhin. On trouve également quelques Allemands qui viennent régulièrement faire le plein de provisions, à l'image de Rosa. Elle a travaillé 20 ans dans les chemins de fer, puis a occupé des emplois temporaires dans des usines d'assemblage de pièces pour voitures.
Je suis retraitée. J'ai une toute petite retraite alors que j'ai travaillé pendant 41 ans. Et je suis bien contente qu'il y ait une association comme Ditafel pour nous venir en aide. Ici, on peut faire ses courses pour 1 euro, et c'est une bonne chose.
Est-ce qu'on peut vous demander le montant de votre retraite ?
Je touche 640 euros de retraite. J'ai 66 ans.
Vous avez un appartement, vous avez un loyer, il est de combien votre loyer ?
Je paye 400 euros de loyer, charges comprises.
Vous avez beaucoup de vos collègues qui sont dans la même situation que vous, des anciennes collègues qui travaillaient avec vous?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation. Par exemple, mes anciennes collègues, mais je n'ai pas de contact avec eux.
Le centre d'Itafel, l'équivalent de nos Restos du Cœur, existe depuis 1995 à Duisbourg. Il couvre aujourd'hui les besoins de 4500 personnes qui ont du mal à s'en sortir financièrement, comme cette jeune femme fraîchement sortie de l'université.
Mon prénom, c'est Laura.
Laura. Vous avez quel âge ?
20 et 100.
25 ?
Oui.
Vous êtes étudiante?
J'ai fini mes études il y a peu de temps et je cherche du travail. C'est très difficile de trouver quelque chose.
Vous avez quoi comme diplôme?
J'ai un master en biologie. Beaucoup d'employeurs exigent qu'on ait fait un doctorat et c'est difficile d'avoir un poste sans avoir fait de thèse. Dans la Ruhr, il y a beaucoup de demandes mais très peu de postes. Et si je veux continuer mes études, je n'aurai pas d'aide de l'Agence pour l'emploi. C'est pourquoi je recherche actuellement du travail, histoire d'avoir quelques perspectives. Mais même ça, c'est difficile. Il faudrait que je prenne un job de 60 heures par semaine et qui serait en plus mal payé. Mais je cherche quand même. Des fois, mieux vaut être mal payé que pas payé du tout.
Ici, il y a des distributions de nourriture. Pour vous, c'est une aide, on va dire, temporaire, alors?
Oui, c'est ça.
Vous connaissez beaucoup de jeunes qui sont dans votre situation?
Je connais des gens de mon âge qui sont dans ma situation et qui ont des enfants. Ces gens ont un rythme dément. Travailler, puis s'occuper des petits, notamment quand ils sont en bas âge. Il y a des personnes dans mon cercle d'amis qui ne vont pas bien.
Ancien pôle industriel de la Ruhr, Duisbourg est aujourd'hui une ville sinistrée. Elle a bâti son essor économique dans les années 50 grâce à l'industrie de l'acier et du fer, avant de connaître un inexorable déclin. Le taux de chômage y est actuellement de 12,7%, soit deux fois plus que la moyenne nationale.
Je m'appelle Günter Spitkowski. Je dirige depuis 2008 Die Tafel à Duisbourg. Ce que l'on vit actuellement, c'est une augmentation de la précarité au cours de ces dernières années. Même si j'ai l'impression que depuis quelques mois, depuis un an, cela n'augmente plus, mais se manifeste tout simplement à grande échelle. Les gens qui viennent chez nous sont généralement des chômeurs de longue durée ou bien encore des retraités dont la situation ne va plus vraiment changer et qui ont besoin d'être aidés.
On parle de l'Allemagne comme étant un modèle en termes d'économie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut nuancer? Est-ce que pour vous, c'est qu'une facette de la réalité de votre pays?
Ce n'est pas une façade, mais il y a des réalités très différentes. Il y a l'Allemagne qui rencontre beaucoup de succès en matière économique, qui a de très bonnes statistiques, une situation favorable aux deux tiers de la population du pays. Mais il y a l'autre tiers de la population, dont font partie les gens qui viennent chez nous, qui ne participent pas à cette croissance économique. Les gens qui ont des mini-jobs, des jobs à temps partiel, les retraités, les parents isolés, tous ces gens ne participent pas à la croissance économique. C'est pourquoi je considère qu'il y a un besoin de rééquilibrer les choses et que je souhaite que plus de choses soient faites en matière de politique.
L'Allemagne est l'un des pays où les inégalités se sont le plus creusées. Et vous le constatez?
Les gens qui, jusqu'ici, avaient des jobs mal payés sont de plus en plus mis sur la touche parce qu'ils n'ont plus la possibilité de s'en sortir. Les mini-jobs sont une partie du problème. D'un autre côté, la problématique tout entière, les assurances, les aides sociales et ce genre de choses, se font au détriment des gens pauvres. Et ils font la queue, ici, ils n'ont plus de possibilité, plus d'autre choix.
Il va y avoir des élections demain. La coalition au pouvoir a de fortes chances de l'emporter. Est-ce que vous espérez qu'il y a un changement?
On peut toujours avoir de l'espoir. Cette évolution, elle ne date pas d'il y a 10 ou 15 ans. Quand j'y pense, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 30 ans, c'était déjà comme ça. Et depuis, la situation globale ne s'est jamais vraiment améliorée. Il y a eu quelques améliorations, ici et là, très légères, mais qui se sont vite effondrées à nouveau avec le temps. Et de ce que j'ai pu voir, la situation n'a fait que se détériorer de manière continue au cours de ces dernières années.
On s'habitue à voir des gens qui sont dans le besoin.
On s'y habitue légèrement, même si je garde toujours à l'esprit que ce n'est pas une condition qui est normale et qui ne devrait même pas en être une. Et même si je viens ici tous les jours depuis bientôt une quinzaine d'années et que je croise toujours les mêmes gens, je sais que l'aide qu'on fournit ne peut être que partielle. Au final, les gens avec qui vous avez parlé dehors, il est difficile de les sortir de leurs conditions de pauvreté. Nous pouvons seulement leur apporter un peu de soutien. Nous pouvons faire en sorte de leur rendre la vie un peu plus supportable. Et comme c'est le cas aujourd'hui, on peut mettre le doigt sur la plaie et avoir la possibilité de s'exprimer pour avoir un peu de visibilité et faire prendre conscience à la population qu'il y a une urgence d'agir.
Ehrenfeld est un quartier populaire de Cologne qui s'est boboisé au fil des années. De grandes fresques colorées sont dessinées sur les murs et des affiches anti-AFD, le parti d'extrême droite allemand, fleurissent ici et là. Santa Pino, une Française de 40 ans, vit depuis 20 ans en Allemagne.
Là, on est dans une rue extrêmement commerçante de votre quartier et on voit ces affiches qui sont donc placardées sur les vitrines. Qu'est-ce qui est écrit là ?
Lageristen in Teilzeit oder 450 € Basis. Ils cherchent des manutentionnaires sur la base d'un contrat à 450 €, donc un mini-job. Mais enfin, la plupart des magasins travaillent avec des mini-jobs.
C'est homme ou femme ?
Homme ou femme, ouais. D'accord. Mais enfin, tous les petits commerces travaillent avec des contrats à 450 €. Hein. Mmh. Tous, partout. Enfin,
c'est devenu en fait. Très courant, très commun.
Ah oui, tout à fait. C'est toute une partie de la population, des mères de famille, des retraités, des étudiants, ou alors aussi des gens tout simplement qui cherchent du boulot, quoi. Mais c'est dans tous les milieux de la société, c'est dans le commerce, En fait, on pourrait s'arrêter vraiment à chaque magasin. Hein.
Nous entrons dans une boutique de vêtements bon marché sur la rue principale d'Ehrenfeld. Une femme, maquillée soigneusement, range des vestes sur un présentoir. Petra accepte de nous parler. Le responsable du magasin n'est pas là.
Depuis quand vous occupez ce travail ici ?
Je travaille ici depuis février. Je gagne 425 € net par mois.
Vous avez un seul travail ou vous en cumulez plusieurs ?
Si j'avais un deuxième mini-job, il serait soumis à l'impôt.
Mais ça vous suffit pour vivre 425 €?
Mon mari a un emploi. J'ai été très longtemps femme au foyer. J'ai longtemps cherché un travail par le passé, avant de me résigner à être femme au foyer. Nous avions quelqu'un qu'il fallait soigner à domicile. Mon mari a un travail. C'est sûr que ce serait mieux si c'était plus, mais je suis déjà contente. Ce que je trouve injuste, c'est que si j'avais un emploi à temps plein, j'aurais le droit de chercher un job d'appoint. Mais comme j'ai déjà un mini-job, je ne peux pas en avoir un second, sinon je devrais payer des impôts dessus. Je trouve ça injuste. De mon point de vue, je me dis que si j'avais deux mini-jobs, mon pouvoir d'achat augmenterait, non ?
Et du coup, est-ce que vous avez une couverture sociale ?
Non, je n'ai pas de couverture sociale avec ce mini-job. Je suis assurée avec mon mari.
Est-ce qu'on peut vous demander votre âge ?
J'ai 54 ans.
Est-ce que c'est plus compliqué de trouver un emploi aujourd'hui à 54 ans ?
Oui, c'est plus dur de trouver un job à mon âge. À vrai dire, on peut dire que ça commence à être compliqué une fois qu'on a passé les 40 ans. Dans certains domaines, ça devient même carrément critique. Quand j'ouvre la boutique le matin ou bien quand je marche dans la rue, je vois que nos retraités ici, pas des SDF, des retraités tout à fait classiques, eh bien, ils regardent dans les poubelles, se baladent avec des caddies, ils doivent ramasser des bouteilles de bière pour les porter à la consigne pour espérer arrondir leur fin de mois. Ce n'est plus vraiment aussi formidable. Les gens qui fuient les conflits doivent être aidés, bien sûr, et sans distinction. Mais, par exemple, alors que nos retraités ne savent plus comment faire pour payer leur loyer, il y a des logements sociaux qui sont construits. Et ces logements sociaux, ils sont destinés aux réfugiés. Bien évidemment que ces gens doivent être aidés, et je soutiens tout à fait cette décision. Mais Madame Merkel a dit à tout le monde de venir en Allemagne, sans faire aucune distinction. Et ce n'est pas juste. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent de travers. Il y a des choses qui doivent être faites pour notre peuple aussi. Et nous avons de nombreux retraités allemands qui sont pauvres. Des gens très, très pauvres. C'est effroyable.
Nous retrouvons Santa, qui travaille dans un musée de Cologne. Nous nous arrêtons dans un café branché d'Ehrenfeld, le café Goldmund, où l'on vient passer un moment entouré de livres.
Vous, dans votre parcours professionnel, vous avez été confronté à la précarité. Est-ce que vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui ?
Alors moi, en effet, oui, j'ai été un petit peu, comme beaucoup d'ailleurs, non seulement touchée, mais on est confronté au quotidien avec ces contrats de travail qui sont à durée indéterminée, avec une pression énorme sur le boulot. Alors bon, moi, j'ai pendant plusieurs années, j'ai fait un mini-job, donc un boulot à 450 euros pendant à peu près 8 ans. Sauf que ces boulots à 450 euros, bon bah, il n'y a pas d'assurance sociale, c'est une galère pas croyable pour énormément de gens qui cherchent du boulot, de se demander mais comment je fais en fait pour avoir ma sécurité sociale, parce que quand on est à son compte, il faut payer 300 euros par mois pour la sécurité sociale en privé. Si on gagne 800 euros ou 1000 euros parce qu'on est dans la culture, il y a peu de contrats, on a des grosses difficultés pour ça, quoi. Donc voilà, boulot à 450 euros, il n'y a pas de charge sociale, donc on n'est pas assuré. Boulot à 450 euros, dans mon cas aussi, qui était un contrat toujours à durée indéterminée, donc pour un an. On n'est jamais sûr à la fin de l'année, est-ce qu'on va pouvoir continuer ou pas à travailler, quoi. À l'époque où Schröder a fait l'agenda 2010, c'était un but qui était vraiment, qui a été dit très ouvertement, c'était d'augmenter le niveau bas de salaire. Donc c'était vraiment un but explicite de ce gouvernement et du patronat à l'époque de dire nous voulons créer un secteur mal payé, de bas salaire. Ça a été ouvertement dit, c'était vraiment le but recherché.
Alors en contrepartie, les chiffres du chômage, ils sont plutôt bons au regard du reste de l'Europe. Il y a un chômage qui est relativement contenu ici. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de mini-jobs, cela explique que le chômage soit dans des proportions à peu près acceptables?
Alors ça, c'est sûr que dans les statistiques, toutes les personnes qui ont des contrats de bas salaire, justement, ne sont pas prises en compte par les statistiques. Et en Allemagne, alors là, les chiffres actuels, je ne les connais pas, mais il y a quelques années encore, il y a 2 ans, il y avait quand même 6 millions de mini-jobs. Donc 6 millions de personnes qui ont peut-être différents petits boulots, dont un mini-job.
C'est 7 millions aujourd'hui.
C'est 7 millions maintenant. Ouais, donc moi, j'avais le dernier chiffre, c'était 6 millions, donc ça ne m'étonne pas. Donc c'est entre 6 et 7 millions de personnes qui n'apparaissent pas dans les statistiques et qui vivent de manière extrêmement précaire, avec plusieurs boulots, ou alors un petit salaire ou 2 petits salaires qu'ils accumulent, ou alors des retraités qui ont une petite retraite et qui font un boulot à 450 euros en plus, des étudiants qui essaient de voilà. Donc tous ces gens-là n'apparaissent pas dans les statistiques. Donc en effet, le chômage allemand est bas dans les stats, mais par contre, qui est-ce qu'on prend en compte dans ces statistiques pour mesurer vraiment le taux de chômage?
Cette précarité, elle a aussi des conséquences plus profondes, à savoir que l'Allemagne est un pays assez vieillissant. Est-ce que, en fait, tout ça est lié?
Alors, il n'y a aucun doute que tous ces contrats précaires, et c'est dans tous les milieux, je veux dire, c'est dans le secteur public, c'est dans les universités, c'est dans les hôpitaux, c'est dans les entreprises privées, les petits magasins et compagnie, mais il est évident que tous ces emplois qui sont précaires contribue également à mettre une pression énorme. Beaucoup de gens qui vont décider de ne pas créer de famille, parce que bon, moi je suis aussi active politiquement dans les universités par exemple, et énormément de chercheurs par exemple se retrouvent dans des situations d'avoir des contrats extrêmement précaires, d'un an, 2 ans, ils ne savent pas s'ils vont continuer à pouvoir continuer, et c'est évidemment pour créer une famille, c'est une catastrophe. Moi je suis persuadée que le taux de natalité qui est très bas en Allemagne est lié très très fortement au fait qu'il y a une énorme précarité dans ce pays-là. Et l'endroit où moi je travaille concrètement, je travaille dans un musée, on est 98% de femmes, on a toutes entre 25 et 50 ans, et toutes les femmes entre 25 et 40 ans se retrouvent en fait dans une situation à devoir décider. On a quasiment toutes des contrats qui ne durent qu'un an et qui sont renouvelés à chaque fois pour un an, dans mon cas depuis presque 10 ans. Évidemment qu'on se demande, si je tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui est sûr, c'est que mon contrat ne va jamais être renouvelé à la fin de l'année. Donc si je décide de tomber enceinte, après c'est fini, à la fin de l'année, je suis au chômage, quoi. Donc ça, je sais que oui, évidemment, ça contribue énormément à un taux de natalité qui est très bas. Ça, il n'y a pas de doute.
Le taux de natalité allemand est légèrement remonté ces dernières années. Il est aujourd'hui de 1,5 enfant par femme contre 1,25 en 1995. On est encore loin des 2 enfants par femme, comme c'est le cas en France, nécessaire au renouvellement de la population. La natalité est l'un des gros enjeux de l'Allemagne, qui souffre d'une population vieillissante. La proportion d'Allemands de plus de 65 ans ne cesse de croître et le fossé de se creuser avec le reste de la population. On estime que 2 400 000 personnes âgées vivent actuellement avec moins de 900 euros par mois. Selon certaines études récentes, un retraité sur 5 sera touché par la pauvreté d'ici 2030. Nous avons rendez-vous chez Renate. Elle habite un joli appartement dans le quartier de Zülz, à quelques arrêts de tramway de la cathédrale de Cologne. Renate a proposé à son amie Giza de nous rejoindre. Elles ont créé toutes les deux une initiative pour permettre aux personnes de 60 ans et plus de trouver des petits boulots.
Je m'appelle Renate Paulat, j'ai 62 ans et je vis à Cologne. Je touche une pension de retraite, mais qui n'est pas très élevée. Et je n'ai pas d'entourage, ni mari, ni famille qui pourrait m'apporter un soutien quelconque. Quand on doit mener sa barque seule, ce n'est pas facile. Mon loyer est élevé. J'ai une retraite de 1 000 euros et 600 euros partent dans le loyer et le chauffage. Il me reste donc 400 euros, ce n'est pas beaucoup. Et j'ai encore des dépenses. La redevance télé que tout le monde doit payer ici, le téléphone, quelques assurances, même si j'ai résilié certains contrats aujourd'hui. Il ne me reste plus que l'indispensable. Il me reste alors 300 euros. On ne peut pas vivre de ça.
Vous avez une activité complémentaire ?
J'ai travaillé avec la Croix-Rouge dans l'assistance de gens atteints de démence. Aujourd'hui, je suis allée voir une dame âgée de 97 ans, avec laquelle on a fait quelques activités pendant quelques heures. Par exemple, on a fait de la musique parce qu'elle joue encore du piano. Ça lui fait plaisir et elle paye pour ça, et ça, ça améliore ma retraite.
Comment est née l'idée de cette initiative ?
Il y a une rencontre entre seniors dans le sud de Cologne pour discuter, entre autres, du niveau des retraites. Beaucoup ont dit qu'ils trouvaient leur retraite faible. Et Renate et moi, nous nous sommes dit, et si on crée une initiative d'entraide et tentions de trouver un peu de travail pour les plus âgés, notamment pour ceux qui ont de petites pensions de retraite. Beaucoup ont dit que ça ne les intéressait pas, qu'ils ne voulaient plus travailler. L'initiative est née en 2012. Nous étions alors une trentaine de personnes. Mais c'était difficile de garder ce groupe uni et de conserver la même ligne politique. C'est un peu comme dans un parti, chacun a ses idées. Aujourd'hui, nous sommes entre 8 et 10. Il y a une idée reçue qui est fausse. Nous ne sommes pas une agence. Nous ne faisons pas de recrutement. De toute façon, ce ne serait pas possible. Nous sommes des personnes privées et nous n'avons aucun financement. Nous ne sommes donc pas une agence à proprement parler, mais nous faisons en sorte de trouver du travail pour nos membres, ou bien nous échangeons les propositions de job que nous recevons, ou encore nous nous donnons des informations. Jusqu'à présent, cela a bien fonctionné. Certains ont même trouvé des jobs grâce à notre site internet.
Ça peut être du jardinage, ça peut être de l'aide à domicile, peut-être pour des personnes qui sont dépendantes. Quel genre de travail ?
Oui, ça peut être de l'aide à domicile, par exemple, de l'assistance pour personnes dépendantes, comme fait Renate. Un autre senior s'occupe d'un très vieux monsieur. Une autre dame, chez nous, a travaillé dans un call center. Elle a également travaillé chez un avocat, où elle s'occupe de répondre au téléphone. Nous avons un ingénieur dans notre groupe qui donne des cours particuliers en mathématiques. et quelqu'un cherchait du soutien pour les maths, alors je lui ai conseillé cette personne. Qui y a-t-on d'autre ? Ah oui, un senior qui avait un magasin de fleurs et qui aujourd'hui fait du jardinage de temps en temps.
Politiquement, il n'y a aucun parti qui a essayé de vous approcher ?
Si, le Parti des Verts a essayé de nous approcher. Il y a une femme politique qui a lancé une pétition ici, auprès du conseil municipal de Cologne. Cette pétition a été rejetée sous prétexte que ça coûterait beaucoup d'argent et que ce n'était pas une urgence. D'autant plus que le pourcentage de retraités qui travaillent ou qui veulent travailler est trop faible par rapport au nombre de retraités. Combien il y a de retraités à Cologne déjà ? Je crois que c'est quelque chose comme 250 000 personnes. Et je crois que seuls 5% d'entre eux, voire moins, travaillent. C'est trop peu pour monter une bourse du travail.
Est-ce que vous estimez que vous êtes un petit peu abandonné par les politiques ?
Oui, on peut dire ça. En ce moment, soit juste avant les élections, on parle beaucoup des retraités, mais ce sont beaucoup de paroles en l'air.
Au début, ils disent qu'ils vont changer, qu'ils vont améliorer ceci ou cela, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si c'est différent en France, mais en Allemagne, la situation est désastreuse. On ne sait plus pour qui on doit voter. Ce ne sont que des promesses. Et après, quand ils doivent faire des coalitions avec d'autres partis, tout ça disparaît bizarrement. Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait aller plus souvent dans la rue, nous aussi, comme c'est le cas en France, se rebeller, quoi.
La face cachée du miracle allemand, reportage de Valérie Crova. Retour à l'Institut français de Berlin en compagnie de nos invités, l'historien politologue Klaus Petersik et l'économiste et juriste Matthias Schaeffer. Alors on vient d'entendre des retraités dont la situation est très précaire. Elles se sentent abandonnées. Est-ce que c'est une réalité, Matthias Schaeffer ?
D'abord, j'aimerais bien dessiner un peu le plus grand image derrière notre système de pension. Si on regarde notre système de sécurité sociale ou de pension, il faut bien respecter que le système en moyen, et je bien accepte que c'est seulement un chiffre statistique, mais en moyen, si on travaille pour 40 ans, si on touche un salaire qui est plutôt le salaire moyen, ça veut dire environ 3 000 € par mois brut, vous pouvez bien attendre une retraite d'environ 1 300 € par mois. Alors, à mon avis, ça signifie que le système est, en ce moment-là, encore dans une situation dans laquelle on peut dire que ça fonctionne, que ce n'est pas un système qui délivre ou qui mène à des cas qui sont seulement caractérisés par les cas que vous avez dans votre reportage.
Bien sûr, il ne s'agit pas de la situation de la plupart des gens. Simplement, c'est aussi une réalité, c'est ce qu'on voulait étudier avec vous aujourd'hui. Il y a un minimum vieillesse, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de pauvreté, il y a un accompagnement social pour des personnes
en difficulté. C'est plutôt qu'on fait cette aide sociale, on la transmet aussi pour les retraites. Ce sont vraiment des très petits cas en ce moment-là en Allemagne qui touchent une aide sociale comme retraité.
Valérie Crova.
La situation que vous décrivez, ce sont pour des gens qui ont un parcours professionnel linéaire, qui ont été employés. Donc ça ne concerne pas tous les salariés. Certains ont eu des ruptures de contrat, voilà, ont été licenciés. Et c'est de cela dont on parle dans le reportage.
Voilà. Je peux réagir, moi ?
Bien sûr.
Merci. Alors d'abord, je voudrais dire que vous faites très bien de rétablir un peu l'image de l'Allemagne qu'on peut avoir en France. Cette image a tendance à être trop positive, trop étincelante, trop lisse. Et je pense que c'est donc très bien que vous parlez de ce quart, voire de ce tiers de la population allemande où il y a un véritable risque de décrochage. Je voudrais citer quelques chiffres. Il y a 16% des personnes retraitées qui sont dans un risque de pauvreté véritable. Il y a 600 000 parents élevant seuls leurs enfants qui vivent des aides Hartz. Il y a 4 millions de working poor. Il y a un demi-million de retraités dans l'aide sociale. Il y a 7 millions de surendettés. On n'en parle pas assez aussi durant cette campagne-là. Il y a une Allemagne de l'Est où des régions ont tendance à décrocher. Vous avez parlé des régions à l'ouest de l'Allemagne, ces régions de la vieille industrie, de la première industrialisation allemande. À juste titre, nous avons aussi notre Lorraine en Allemagne où, bien sûr, il y a peut-être plus d'argent qui circule dans le système public en Allemagne. Donc, on peut financer des aides sociales considérables. Peut-être vous avez le budget complet des aides sociales qui sont redistribuées dans la population, qui donc minime la véritable détresse. Mais nous avons des problèmes sociaux graves. Sinon, nous n'aurions pas les partis extrêmes que nous avons depuis longtemps et que nous aurons encore plus cette année. Probablement.
Et là, on parlait en fin de reportage des retraités plus précisément. Il y a aussi une évolution démographique avec de plus en plus de personnes âgées. Donc, on peut se demander si ce phénomène ne risque pas d'augmenter.
Ouais, bien Mathias sûr. Schaeffer. À mon avis, c'est vraiment un point assez important que derrière les retraites moins élevées, à mon avis, les raisons, ce sont soit le chômage, c'est-à-dire le succès des réformes sur le marché du travail en Allemagne les 10 années passées. C'est quelque chose qui bien mène dans une situation assez plus stable, parce que si on réduit le chômage, si on crée, et on a créé, figurez-vous, on a créé 5 millions de jobs dans le marché régulier, pas dans le marché de précariat. Ça va donner une meilleure perspective pour les retraites à venir. Le deuxième point, c'est aussi que le vieillissage des personnes. Vous avez parlé de Renate dans votre reportage. Renate, elle avait 62 ans. C'est-à-dire, elle va encore, statistiquement, elle va vivre encore 25 années. Si elle touche, comme elle disait, 1 000 euros par mois, ça veut dire que ce sont 12 000 euros par an. Multiplié avec les 25 années de vie encore, ça fait un capital de 300 000 d'euros qu'elle va toucher pendant sa retraite. C'est quelqu'un qui doit le financer dans notre système de retraite. Et ce sont les jeunes ou ceux qui sont dans le travail, ce sont ceux qui se réduisent de quantité. C'est-à-dire, on n'a que la situation dans laquelle aussi le gouvernement Merkel nous a menés, c'est qu'en fait, avec cette force de marché du travail, on est au moins capable de balancer les risques de ce vieillissage de la société.
Alors avant de poursuivre le débat, je vous propose d'écouter un syndicaliste. Il s'appelle Vitish Rossmann, il est représentant d'IG Metall, le syndicat de l'industrie métallurgique et électronique dans la région de Cologne.
Nous stellen fest, dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt.
Nous constatons que le nombre d'emplois augmente, mais pas le volume du temps de travail. Le nombre d'emplois augmente surtout dans la catégorie du travail à temps partiel. Il y a beaucoup de jobs qui sont temporaires, à durée déterminée, ainsi que beaucoup de jobs qui sont dans la catégorie des bas salaires. C'est la part d'ombre des succès en matière d'emploi. La DGB, la Confédération allemande des syndicats, a réussi à installer le salaire minimum pour la première fois en 2014. Et ce fut une grande surprise de voir que 4 200 000 actifs profitaient de ce salaire minimum. Cela signifie qu'auparavant, 4 200 000 Allemands travaillaient en dessous du salaire minimum.
Le salaire minimum, donc c'est l'équivalent du SMIC en France, il est de 8,8 euros par heure. Est-ce que c'est suffisant ?
Nein, es ist weit unterhalb dessen.
Non, ce n'est pas suffisant. C'est bien en dessous de ce que doit gagner un employé pour qu'à la fin de sa vie, il puisse obtenir une retraite au-dessus du minimum retraite. C'est un progrès que d'avoir réussi à instaurer un salaire minimum. Mais nos exigences syndicales sont plus élevées en ce qui concerne le salaire minimum. Dans l'industrie métallurgique, le salaire horaire le plus bas est de 14,60 euros. C'est une grande différence avec le salaire minimum.
L'instauration du salaire minimum, ça a été une vraie bataille pour l'obtenir ?
Es war ein
Il y a eu beaucoup de résistance en Allemagne, parce que c'est une question en totale contradiction avec les économistes conservateurs et leur idéologie néolibérale dans le pays. Par ailleurs, il n'y a pas de tradition de salaire minimum ici, parce qu'il y a encore 20 ans, il y avait des conventions collectives dans presque toutes les branches, des conventions collectives qui garantissaient un salaire minimum. Mais les faiblesses des syndicats dans certains secteurs de services, dans la logistique, dans le travail temporaire, nous ont obligés à nous battre pour un salaire minimum.
Wittich Rossmann, Digue Metal. Donc, Klaus Petersik, ce salaire minimum, il a donc été instauré il y a 2 ans seulement. C'est très récent. C'était pas dans la mentalité allemande.
Non, c'est vrai. Et bien sûr, bon, il reste très bas. En France, je pense, c'est 1 euro de plus par heure. Donc, c'est scandaleusement bas, toujours en Allemagne. C'est vrai. Et on ne peut pas vivre avec un job dignement, disons, avec un job au salaire minimum. C'est vrai. Ce n'est pas dans la tradition allemande, mais aussi parce que les syndicats, il l'avait dit, le syndicaliste de IG Metall, d'ailleurs le syndicat le plus puissant à ce jour du monde, avec 2,3 millions de membres et un budget d'un demi-milliard d'euros, figurez. Donc c'est une institution qui reste très puissante, et puisque nous n'avons pas eu de salaire minimum aussi à cause de la force de négociation des syndicats dans le monde, le tissu économique traditionnel de l'Allemagne.
Donc il n'y avait pas besoin, entre guillemets.
Il n'y avait pas besoin, et vous voyez, il avait dit d'ailleurs que le salaire minimum dans certaines branches est beaucoup, beaucoup plus élevé. N'est-ce pas? Un ouvrier de chez Mercedes ou dans le sud de l'Allemagne, il gagne plus parfois qu'un professeur d'université. Il y a des différences de salaire qui sont incroyables dans le travail manuel en Allemagne, entre Duisburg et Munich, par exemple. Donc, ça reste d'une certaine manière là où ça fonctionne, la vieille économie allemande. Il n'y a pas besoin d'un salaire minimum parce que la négociation fonctionne. Mais il y avait besoin, avec cette nouvelle économie de la précarisation des mini-jobs, d'introduire cela.
Et ça a vraiment été utile? Il y a eu de réelles avancées grâce à ce salaire minimum, Matthias Schaeffer?
À mon avis, d'abord, j'aimerais bien souligner que normalement, dans notre système de partenariat social, un salaire minimum n'est pas quelque chose de naturel, mais ce sont les forces soit des syndicats, soit aussi les associations des entreprises qui peuvent bien, sans un salaire minimum adressé par l'État, par le gouvernement, trouver des salaires qui sont bien appropriés à la situation de les branches ou des économies dans lesquelles ils travaillent. Et à mon avis, ce qui serait beaucoup plus logique ou bien stratégique, ce serait que les syndicats ne se plaignent pas que le salaire minimum est tellement bas, mais qu'ils vont là où vous étiez avec votre reportage et qu'ils doivent qu'ils essayent bien à collectionner ou à prendre les gens dans les routes, soit les gens avec les mini-jobs, soit les gens avec les petites retraites pour leurs membres, pour regagner de force des syndicats dans le champ de vraiment devenir les porte-parole politiques aussi dans cette situation sociale qu'on a dans l'économie allemande.
Qu'ils défendent tous les travailleurs.
Voilà.
Plus largement.
À mon avis, ils ont fait...
C'est une vue trop optimiste des choses. Mais parce que ce sont des... Il y a là un précariat qui ne vit plus dans la tradition du mouvement ouvrier traditionnel allemand. Hein. Tous les têtes de IG Metall que vous avez citées étaient membres du SPD. Tous, jusqu'à aujourd'hui. Donc la connexion entre ce syndicat et le SPD était très fort. Mais... aujourd'hui, la IG Metall n'arrive plus à souder, à arriver chez ces gens qui souvent, d'ailleurs, sont issus de l'immigration, qui vraiment constituent une classe de pauvres, vraiment de pauvres, qui ne sont plus intégrés, on n'arrive pas à les atteindre, n'est-ce pas, facilement, parce qu'ils vont d'un job à l'autre, ils ont une vie très instable, vous avez beau le dire, mais c'est une tâche extrêmement difficile et je dirais qui, là encore, individualise la responsabilité pour ce problème grave de la société allemande aux marges qui le place chez les gens ou chez les syndicats là. Et je pense que c'est un problème que la société dans son ensemble devrait prendre en compte.
Valérie Crova.
Vous voulez dire que les syndicats ont du mal à mobiliser ces gens-là?
Absolument.
Oui, mais ça, c'est leur tâche. C'est leur tâche historique. Et à mon avis, si on...
On ne peut pas le dire comme ça, excusez-moi.
Mais si on constate que la situation en ce moment-là n'est pas acceptable, il faudrait bien réfléchir sur les stratégies qui ne multiplient ce qu'on a fait les années passées, qui apparemment a mené dans cette situation. À mon avis, si on compare par exemple, ou si on prend la campagne électorale, on parle de la politique sociale. Si on compare les budgets de secteur social, par exemple au secteur éducation, c'est beaucoup plus élevé. On verse presque 800 000 milliards d'euros pour la politique sociale et moins que 200 milliards d'euros pour l'éducation, la formation. Alors, il faudrait plutôt réfléchir si ce chemin de seulement adresser les problèmes sociaux est bien attaqué avec les politiques sociales ou plutôt avec les politiques d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui est à la table de l'élection.
Je suis tout à fait d'accord, mais vous le savez comme moi que le budget allemand est en dessous de la moyenne de l'OCDE, n'est-ce pas? C'est un des points qui n'a pas été thématisé durant la campagne. C'est d'ailleurs un point qui n'a pas été thématisé assez par le SPD qu'il a sur les sujets que vous mentionnez dans vos reportages. C'est un problème aussi du SPD, je suis tout à fait d'accord.
Alors, on va justement écouter le point de vue de Christophe Butterwege. Il est ancien professeur de Sciences Po, investi par le parti Die Linke, la gauche, comme candidat à l'élection présidentielle en février dernier. Il est arrivé en deuxième position derrière Frank-Walter Steinmeier. Et donc, justement, on va entrer dans les questions politiques avec lui.
Ich würde gerne nochmal, Angela Merkel sagt im Wahlkampf immer, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie heute.
La chancelière Angela Merkel se félicite souvent elle-même et son gouvernement en disant que les gens en Allemagne ne se sont jamais sentis aussi bien qu'aujourd'hui. Mais c'est superficiel. Elle ne prend pas en compte que la prospérité grandissante concerne essentiellement les riches, les plus riches. La part d'ombre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal. Ça vaut par exemple pour ceux qui ne peuvent pas payer un loyer dans une grande ville, ou encore pour ceux qui font partie du secteur des bas salaires, ou encore ceux qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, la situation est bien différente de ce que la chancelière veut bien présenter. Il y a plus de précarité. Oui, il y a plein de gens qui ne sont jamais allés aussi bien qu'aujourd'hui, mais il y a aussi des gens qui vont de plus en plus mal, qui sont dans des situations d'urgence, qui vivent dans la peur de ne plus pouvoir payer leur loyer et qui donc ne profitent pas vraiment de cette prospérité grandissante.
L'Allemagne est l'un des pays de l'OCDE où les inégalités se sont les plus creusées. Comment vous l'expliquez ?
Ich sehe drei Ursachen.
Selon moi, il y a trois raisons.
Erstens, der Um- und Abbau des Sozialstaates.
La transformation et la dégradation de l'État social, avec les réformes néolibérales au niveau de l'État social, le risque de pauvreté des gens est devenu grandissant. Beaucoup de familles n'ont plus la sécurité sociale qui était garantie lors des précédentes décennies. Ensuite, avec le dérèglement du marché du travail, il y a un secteur des bas salaires très large qui a vu le jour, puisqu'il concerne pratiquement une personne active sur quatre. Par ailleurs, la pauvreté aussi a pris de l'importance. Et elle s'est même installée dans le cœur de la société. Troisièmement, la politique des impôts des différents gouvernements fédéraux a eu un caractère polarisant. D'un côté, les impôts sur les capitaux et les bénéfices ont été réduits. L'impôt sur la fortune n'a plus été augmenté depuis 1997. Les impôts sur les sociétés sont passés de 45%, ou plutôt 30%, sous Helmut Kohl à 15% aujourd'hui. De fait, les gens qui ont les plus hauts revenus, ou bien le plus de biens, paient moins d'impôts. Et de l'autre côté, la TVA a été augmentée. Elle est passée de 16 à 19%. C'est un impôt indirect sur la consommation qui touche directement les gens qui sont bénéficiaires de prestations sociales ou des gens qui touchent un salaire moindre et qui mettent presque tout leur argent dans les dépenses du quotidien. Quand on mène une telle politique d'impôt, ça a une conséquence inévitable, la scission de la société entre les pauvres et les riches.
Est-ce que la question de l'emploi peut avoir une incidence sur le vote ou bien l'issue du scrutin ne fait aucun doute pour vous ?
Les questions portant sur le marché du travail ou la politique de l'emploi ou sur la politique sociale en général ne jouent qu'un rôle secondaire dans cette campagne électorale. Je regrette que les soucis et urgences sociales des gens qui touchent des bas salaires, des gens qui touchent des prestations sociales, des gens qui ne trouvent pas de logement à des prix abordables ne soient pas pris au sérieux par les grands partis. Quant aux politiciens les plus en vue, ils n'en parlent presque pas durant les débats télévisés, alors qu'en réalité, ce sont des questions qui intéressent les gens. Aujourd'hui, il est surtout question de terrorisme, d'expulsion de fauteurs de troubles, du refus ou non d'accueillir des réfugiés ou encore des rapports à adopter avec la Turquie. Mais les questions sociales, comme la pauvreté des enfants, de plus en plus importante, celles des personnes âgées, les questions sur l'assurance vieillesse, des retraites, toutes ces questions ne jouent aucun rôle dans la campagne électorale. Cela montre bien la faiblesse de cette campagne. Je souhaite que le prochain gouvernement fédéral ne continue pas la transformation et la dégradation de l'État social, qu'il modifie le dérèglement du marché du travail pour le régler de nouveau, que le salaire minimum soit sensiblement augmenté, que le travail en intérim ou le travail temporaire soit interdit ou bien fortement réglementé. Malheureusement, aucun de ces thèmes ne sont actuellement traités et je crains que la République fédérale d'Allemagne connaisse un écart plus grand entre riches et pauvres, et ce à cause d'une politique qui est faite contre les intérêts d'une majorité de la population.
Dass eine Politik gemacht wird, die gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist.
Christophe Butterweg au micro de Valérie Krova. Mathias Schäfer, Angela Merkel a peu évoqué ces thèmes dans sa campagne. Ça n'est pas un sujet majeur?
Ah non, je ne dirais pas que ce n'est pas un sujet majeur. Je reviens à votre reportage. Il y avait une personne qui a bien lié la situation des réfugiés avec sa propre situation. Elle a disait, enfin, eux, ils viennent, ils reçoivent l'aide sociale. Et moi, qu'est-ce qui reste pour moi? Alors, à mon avis, les gens...
Alors, c'est un ressenti ou c'est une réalité?
À mon avis, d'abord, c'est un ressenti, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que les gens sont bien... Je reviens à votre question. La politique sociale, la situation sociale, c'est quelque chose qui est à la table pendant cette élection. C'est pas qu'on se consacre seulement à la situation de sécurité des réfugiés. À mon avis, on parle bien de ce truc. Il faudrait, à mon avis, je suis pas d'accord avec tous les jugements de Christophe Butterweg. À mon avis, le système social fonctionne bien en Allemagne. Figurez-vous un seul chiffre. La classe moyenne en Allemagne, par la redistribution de l'État social, elle est augmentée à la population de presque 47% vers 65%, c'est-à-dire le système de redistribution établit une force de la population dans le moyen et cette classe moyenne ou le Mittelstand en allemand, ça donne une certaine stabilité pour, pas seulement pour notre économie, mais aussi pour notre situation sociale.
Klaus Petersik, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Non, je trouve d'abord très intéressant que vous avez choisi Christophe Butterweg, qui est en effet un intellectuel symptomatique pour une gauche, de la gauche très proche du SPD longtemps, qui a été déçu par la politique de Gerhard Schröder, par les réformes, par l'agenda 2010, et qui, par ailleurs, n'a pas rejoint Die Linke, comme on aurait pu le penser.
Une petite parenthèse sur l'agenda 2010, pour qu'on comprenne exactement ce que c'était.
Oui, ce sont les réformes Hartz, n'est-ce pas, des réformes dans la lignée de Blair en Angleterre, donc si vous voulez
néolibérales, on peut le qualifier.
Oui, vous le diriez, sans doute, ça me gêne toujours quand les Français parlent de néolibéralisme parce que le vocable de libéralisme garde et inclut à gauche en Allemagne une connotation beaucoup plus positive, il signifie une notion beaucoup plus politicienne et pas politique, disons, parlementarisme, liberté, etc. Et pas seulement le libéralisme économique auquel on a trop, je pense sincèrement trop tendance à le réduire en France, malgré une grande tradition libérale que vous avez, pensez à Benjamin Constant, etc. Bon, alors Christophe Butterweg, oui, il a raison de mettre son doigt sur ces problèmes que nous avons en Allemagne, et c'est l'une des grandes voies, je dirais, de l'Allemagne pauvre. Il fait ses recherches là-dessus et il a raison de le faire. On parlait de la campagne et de l'absence des problèmes sociaux durant cette campagne. Oui, mais c'est vrai. Pensez par exemple au duel télévisé, le sommet de la campagne, où ça n'a pas joué, disons, un grand rôle, mais aussi dû au fait
que Martin Schulz, le candidat du SPD, disons, a suivi la stratégie de, du ramollissement d'Angela Merkel. Il s'est laissé avoir, il n'était pas assez agressif sur ce moment pour la campagne. Il est temps pour la justice sociale, n'est-ce pas ?
Oui, il était un peu coincé aussi du fait qu'il avait participé à la coalition.
Voilà. Absolument, bien sûr. Et d'ailleurs, dans la coalition, le salaire minimum et d'autres mesures sur les retraites, sur beaucoup de choses sont, portent la signature du SPD. Seulement, le SPD n'a pas pu faire valoir assez son travail durant ces quatre années passées. Un travail qui était d'ailleurs sérieux. Et c'est pour cela, revenons à Angela Merkel, qu'elle a cette popularité.
Alors, vers qui se tournent les précaires, justement ? Pour qui votent-ils, s'ils votent encore ?
Ah bah, dans la Ruhr, par exemple, à Duisburg, ils continuent à voter pour le SPD. Là, les chômeurs, auprès des chômeurs, des précaires, le SPD reste, vous voyez, la force de la tradition. Mais dans la Ruhr aussi, il y a des gens qui ont voté durant des générations pour le SPD et qui ont tendance à voter aujourd'hui pour l'AFD. Donc, nous sommes devant le même symptôme qu'en France.
Alors, l'AFD, justement avec cette idée qu'on rend responsables les étrangers de la situation dans laquelle on est parce qu'on estime qu'ils profitent d'aides dont on ne profite pas.
Je me souviens d'un slogan d'un ouvrier de la Ruhr. Il disait, vous voulez intégrer les réfugiés, intégrez-nous d'abord. Donc, il y a une concurrence chez les petits dont il faut vraiment parler après les élections et dont on aurait dû parler avant.
Valérie Crova.
Mathias Schaeffer, il y a un problème dont on a pas beaucoup parlé, c'est celui des chômeurs de longue durée. Mmh. C'est un problème qui est difficile à résoudre.
Ouais, c'est un problème qui est difficile à résoudre, mais j'aimerais bien revenir sur Christophe Buttigieg et les réformes de Hartz. Donc, de nouveau, enfin, figurez-nous, quel est le plus grand problème économique en France en ce moment-là ? C'est le chômage de la jeunesse. Il y a 10 ans, quel était le plus grand problème de l'économie allemande ? C'était le chômage ou l'inactivité au marché du travail, soit des femmes, soit des hommes âgés, soit les migrants. Aujourd'hui, on a bien vu un progrès pour ces groupes qui étaient vulnérables il y a 10 ans. C'est-à-dire, à mon avis, il faudrait toujours souligner que ces réformes ont poussé aussi notre économie dans une situation assez bonne qui est restée, et je reviens sur votre question, qui est restée, c'est une situation difficile pour les gens qui sont au chômage de longue durée, plus de 12 mois. À mon avis, ça ne reflète pas un manque de succès de l'État social, mais plutôt de la politique d'éducation ou de la politique de formation, parce que il y a un changement de la, comment on dit chez nous, la digitalisation. Je crois que vous parlez de la révolution numérique, mais aussi la mondialisation. Ces deux phénomènes de notre économie mondiale pousse ou donne une certaine pression sur les gens qui n'ont pas des qualifications ou aussi des expériences dans le marché du travail et qui leur donne une certaine difficulté à retrouver les boulots.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a du travail disponible, mais pour ça, il faudrait une main-d'œuvre qualifiée qui n'est pas forcément là.
Voilà. Mais enfin, disons que la situation, il y a 10 ans, elle s'est développée pour des décades dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne. Maintenant, on a résolu quelques problèmes et il nous faut encore du temps pour attaquer aussi ce chômage très, très fixé entre les gens desquels vous avez parlé.
Il reste une fragilité chez un certain nombre de femmes contraintes à un temps partiel. C'est aussi lié à une question de mentalité en Allemagne. Klaus Petersik.
De moins en moins.
De moins en moins.
Je pense que vous auriez eu pleinement raison il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'Allemagne a nettement changé. Peut-être, on pourrait en discuter aussi par l'influence de la société est-allemande. Ici à Berlin, c'est sûr.
Oui, les femmes est-allemandes
ont travaillé beaucoup plus que les femmes ouest-allemandes dans les milieux traditionnels de Bavière ou du Baden-Württemberg. La société allemande, sur ce plan-là, est en train de changer très rapidement. Elle se francise.
Alors, vous parlez de la France. Est-ce que la France devrait s'inspirer de l'Allemagne, selon vous, Mathias Schaeffer ?
À mon avis, j'ai l'impression que le président Macron est bien en discussion avec la chancelière allemande. À mon avis, il ne s'agit pas de copier ou d'imiter, mais il s'agit de rebalancer les idées libérales avec les idées de balance sociale ou de redresser une certaine idée. À mon avis, mais c'est mon opinion personnelle, la France a toutes les capacités de regagner sa force, soit économique, soit politique. Et à mon avis, c'est bien de se faire inspirer aussi par quelques expériences allemandes.
Oui, je suis d'accord, surtout sur un plan. Je pense que Macron le fait. Il faut écouter les partenaires, il faut les considérer comme des partenaires dans un dialogue. Il faut prendre au sérieux les gens qui travaillent avec leurs mains. Et il ne faut pas trop valoriser l'abstrait, le philosophique, mais il faut aussi prendre au sérieux l'ouvrier et l'artisan de France.
Merci Klaus Petersic, merci Matthias Schaeffer. C'était le magazine de la rédaction, La face cachée du miracle allemand, avec des reportages de Valérie Crova, Annie Brault et Martin Desclozeau à la réalisation, Philippe Etienne, Christophe Papon et Adelino Mello à la technique. Vous pouvez réécouter ce magazine sur franceculture.fr. We'll be right back.